Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Derrière les chiffres, des visages. Ces salariés d'Auchan qui se mettent en scène dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux viennent d'apprendre leur licenciement. 2400 postes supprimés chez Auchan, deux usines Michelin fermées, 450 salariés menacés chez Vancorex, placés en redressement judiciaire, série noire sur le front de l'emploi. Le gouvernement confirme s'attendre à une vague de licenciements.
Il est vrai qu'il y a un certain nombre de filières qui sont dans des situations préoccupantes. La filière automobile et en particulier les équipementiers, la métallurgie. Il y a des dossiers d'entreprises en difficulté, des annonces de fermeture de sites. Il y en aura probablement dans les semaines et les mois qui viennent.
La CGT, qui a recensé 180 plans sociaux à venir, dénonce une violente saignée industrielle. Quelles en sont les causes? Michelin justifie la fermeture de ses usines de Cholet et de Vannes par la hausse des coûts de l'énergie et l'érosion de la compétitivité européenne face à la concurrence étrangère.
La décision provient d'une transformation radicale des marchés de pneumatiques poids lourds, camions, en Europe, notamment sous l'effet de l'import massif de pneus à bas coût en provenance d'Asie, notamment de Chine.
Dans un contexte d'austérité budgétaire, les licenciements chez Michelin et Auchan ont relancé le débat sur le versement d'aides publiques.
J'ai le souci de savoir ce qu'on a fait dans ces groupes de l'argent public qu'on leur a donné. Je veux le savoir. Et nous verrons si cet argent a été bien ou mal utilisé.
Alors faut-il conditionner l'argent public au maintien de l'emploi pour endiguer les plans sociaux? Entre la concurrence chinoise et la guerre commerciale avec l'Europe, annoncée par Donald Trump, comment les entreprises françaises peuvent-elles faire face? Faut-il craindre un retour du chômage de masse?
Nos trois invités, Sophie Binet, bonsoir madame, secrétaire générale de la CGT. Selon vous, l'État français, donc, doit décider d'un moratoire sur les licenciements. Les aides publiques doivent être conditionnées au maintien de l'emploi en France. Et vous ajoutez, si une entreprise licencie, elle doit rembourser ses aides reçues. À côté de vous, Philippe Dessertine, bonsoir, économiste, directeur de l'Institut de Haute Finance. Vous êtes par ailleurs professeur à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et vous présidez le comité 21 consacré au développement durable. Selon vous, il faut maintenir une politique pro-business en France, donc, et aller beaucoup plus loin dans l'amélioration de la compétitivité de nos entreprises. C'est donc une folie française que l'État donne de l'argent en espérant préserver des emplois. Et enfin, Éric Heyer, bonsoir, économiste, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, enseignant à Sciences Po Paris. Selon vous, ces dernières années, le gouvernement a sauvé toutes les entreprises, même celles qui auraient dû faire faillite. Maintenant, de façon artificielle, le marché du travail, le rattrapage est aujourd'hui plus que brutal, mais il était malheureusement plus que prévisible aussi. Et on démarre avec le chiffre du jour.
Oui, un chiffre inquiétant. Voilà. Selon l'Observatoire français des conjonctures économiques où vous œuvrez, donc Éric Heyer, 150 000 emplois pourraient disparaître l'an prochain, en 2025. L'économie française ne crée déjà plus d'emplois et ça risque donc de s'accentuer. L'OFCE prévoit ainsi une hausse du chômage pouvant aller jusqu'à 8% à la fin de l'année 2025. Ce taux est aujourd'hui de 7,4%. Alors, Éric Heyer, on va d'abord s'intéresser au pourquoi de ces retournements, et avec vous également, bien sûr. Est-ce que c'est d'abord dû à la faiblesse de la croissance et au prix de l'énergie toujours trop élevé?
Non, pas uniquement. C'est-à-dire que globalement, depuis 2019, vous voyez, l'activité en cumulé depuis 2019, c'est plus 5% pour les entreprises, et elles ont embauché 6,5% de salariés pour produire que 5%. Vous voyez, donc il y avait un peu du sureffectif dans les entreprises. Alors, pourquoi? D'abord, il y avait subventionné par l'apprentissage. On est passé de 300 000 à quasiment 1 million d'apprentis. Mais vous voyez, ça a coûté 25 milliards par an, ce dispositif-là. Deuxièmement, ça a été dit, on a sauvé toutes les entreprises grâce aux prêts garantis par l'État. Les défaillances d'entreprises étaient descendues jusqu'à 28 000, alors qu'en période normale, c'est plutôt 55 000 par an. Et là, il y a un rattrapage de ces défaillances, mais c'est normal. Ces entreprises, le jour où elles doivent rembourser les PGE, elles font défaillance et elles détruisent un peu d'emplois. Et le dernier point, c'est ce qu'on appelle le sureffectif. C'est-à-dire que les entreprises nous indiquaient qu'elles faisaient de la rétention de main-d'œuvre pendant ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'elles avaient des carnets de commandes qui étaient pleins, elles avaient des perspectives qui étaient élevées, donc elles ont dit, je garde ces effectifs parce que ça va repartir et je peux le faire parce que je suis aidé, dans un premier temps, par le chômage partiel. Dans un deuxième temps, l'inflation, elles ont fait ce que la Banque Centrale Européenne appelle de la gridflation, c'est-à-dire utiliser le fait qu'il y a beaucoup d'inflation pour quand même rajouter un peu d'inflation. J'ai des coûts salariaux un peu élevés, je les fais passer dans les prix. Mais là, c'est terminé. Les prix sont redevenus, enfin, l'inflation est revenue à peu près à la normale, elles ne peuvent plus le faire. Les aides publiques s'arrêtent et les perspectives d'activité chutent. Les carnets de commandes, donc maintenant, elles reviennent à une situation un peu plus normale.
Sophie Binet, justement, sur les aides de l'État, beaucoup d'entreprises étaient sous perfusion de l'État, quelque part, donc c'était prévisible, peut-être, cet enchaînement qu'on est en train de connaître, parce qu'il n'y a plus de quoi qu'il en coûte. Et maintenant, ferme ces entreprises qui auraient pu fermer plus tôt, quelque part, non ?
Je suis d'accord sur le fait que c'était prévisible. Par contre, je ne suis pas d'accord sur les causes. C'était prévisible et il y a eu un vrai déficit d'anticipation. Ça fait, il y a 6 mois, la CGT a publié un plan, une liste de 130 plans de licenciement. On est quasiment aujourd'hui à 200. Et il y a 6 mois, personne n'en avait rien à faire quand on tirait la sonnette d'alarme. C'est un problème. On aurait pu anticiper un certain nombre de difficultés aujourd'hui. Ensuite, par contre, je ne suis pas d'accord sur l'analyse des difficultés. Le remboursement des prêts garantis par l'État, c'est jusqu'à fin 2026, donc il y a encore le temps. Il y a un médiateur du crédit qui permet aussi aux entreprises de négocier leur remboursement. Et quand on regarde la liste des plans de licenciement, par exemple Michelin, typiquement, c'est pas ça du tout. Michelin, c'est pas du sureffectif.
Alors,
dans certaines usines,
alors,
et ben, Michelin, tout simplement, optimise ses coûts et délocalise la production, puisque c'est une production qui va se faire ailleurs en Europe ou dans le monde, avec une concurrence que Michelin a organisée en interne, puisque depuis 20 ans, ils ont une stratégie à l'échelle mondiale de développer des sites en doublon ou en triplon avec la même production qu'en France, où c'est d'ailleurs les salariés français qui ont formé par exemple des salariés asiatiques pour faire la même chose que ce qu'on faisait en France, et puis on les met en concurrence et on constate évidemment que le prix du travail est plus cher en France et donc on ferme le site français.
Mais Philippe Dessertine, du point de vue de Michelin, on entend votre point de vue, mais ils disent on est plus compétitif par rapport à l'Asie, on est obligé de prendre des mesures.
Non mais je crois que là quand on est en train de parler de Michelin, on peut parler de Valeo, on doit parler de l'automobile mondiale. C'est-à-dire, quand on est en train de dire qu'il y a des difficultés, il y a des difficultés très ciblées en ce moment et très fortes dans des secteurs plus que dans d'autres. Volkswagen est en train de faire un séisme dans la vie allemande en disant en Allemagne, on va fermer des usines. Ce que Volkswagen n'a jamais fait. Nissan a annoncé une contraction de 6% de ses effectifs, c'est-à-dire énorme, qui, entre parenthèses, finira par toucher son allié qui s'appelle Renault. Et là, on a Valeo, on a Michelin, c'est-à-dire on a ce secteur qui est en crise de plus en plus sérieuse, de plus en plus grave. Et évidemment, l'Europe, qui s'appuie énormément sur l'industrie de l'automobile, et la première touchée, le seul qui ne l'est pas là-dedans, c'est Elon Musk. Tesla a dépassé les 1000 milliards de valeur il y a quelques jours, mais ce n'est pas que l'automobile.
C'est un problème de compétitivité, alors, ou pas ?
Alors, il y a un problème de compétitivité européenne, je crois qu'il faut vraiment le rappeler, et surtout, là aussi, être très clair, la différence avec les États-Unis, c'est la tech. Si vous enlevez la tech aux États-Unis, ils ont une compétitivité comme la nôtre. Le problème européen, c'est que ce que dit Draghi, d'ailleurs, l'ancien patron de la Banque Centrale Européenne, qui fait un audit assez, on va dire, coruscant au début du mois de septembre, en disant on a un énorme problème de compétitivité parce qu'on n'est pas là où on crée de la valeur.
Sophie Binet, vous voulez réagir ?
Oui, tout à fait. Je voulais dire, l'industrie automobile, c'est un très bon exemple parce qu'elle est en difficulté, pas du fait des suites du Covid. Elle est en difficulté pour 3 raisons. D'abord, comme toute l'industrie, parce que les prix de l'énergie en France sont trop élevés à cause de la spéculation sur le marché de l'énergie. Donc ça pourrait être réglé simplement. La deuxième chose, c'est qu'il y a un problème de stratégie des grands patrons et des grandes entreprises qui ont fait le choix de privilégier leurs marges et donc d'augmenter leurs prix pour augmenter leurs profits. Profits et les dividendes versés à leurs actionnaires, quand dans le même temps, on tassait les salaires et donc la demande s'est effondrée. L'industrie automobile en France, elle est en difficulté. Pourquoi ? Parce que les Françaises et les Français ne peuvent pas acheter les véhicules électriques au prix auquel ils sont mis sur le marché en France et que la Chine a fait d'autres choix stratégiques de sortir des petits véhicules électriques économiques. Aujourd'hui, la CGT a un projet de véhicule électrique à 15 000 euros, produit intégralement en France, et les constructeurs ne le sortent pas parce que ça ne dégage pas assez de marge et de profit.
C'est pas un problème de salaire aussi, ou pas, Sophie Mignon ? Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui vient gréver les...
Non, parce que la compétitivité, en fait, il faut arrêter d'avoir une vision très limitée de la compétitivité juste sur le prix du travail. Si le problème, c'était que notre travail coûte cher, bon, bah, ça se saurait, on aurait arrêté de travailler depuis longtemps. Notre travail crée des richesses. Le la compétitivité et le décrochage de compétitivité de l'industrie européenne, c'est d'abord le déficit d'investissement, puisque...
Commande Mario Draghi, d'ailleurs.
Tout à fait, puisque nos industries françaises sont particulièrement financiarisées et donc tout l'argent est capté par le coût du capital. C'est la question des prix de l'énergie, c'est aussi la question des infrastructures. Voilà, la Chine, c'est plus comme il y a 20 ans. La Chine est championne sur l'innovation. Elle a beaucoup anticipé les questions environnementales. Contrairement à nous, les constructeurs automobiles ont refusé d'anticiper et d'avoir une stratégie sur la question environnementale.
Les plans sociaux, une fois n'est pas coutume, peuvent aussi toucher certains de vos camarades, des leaders syndicaux, comme François Omeril, qui a 63 ans, le président de la CFE-CGC, doit quitter son entreprise. Écoutez.
Au mois d'avril, on est rentré en redressement judiciaire. Et puis, il y a eu un repreneur. Et le repreneur ne reprend que 119 salariés sur 171. Je suis donc sur la liste des 52 qui ne sont pas repris. Quand tout d'un coup, vous réalisez enfin que l'endroit que vous habitez professionnellement depuis 25 ans, eh bien, on va vous fermer la porte et que vous ne pourrez plus y retourner. Je vous assure que c'est un moment quand même d'une assez grande violence. Ça peut avoir un impact très, très fort.
C'est très inhabituel, inédit d'entendre ça, Éric. Et alors, quelle solution pour stopper cette hémorragie? Est-ce que c'est baisser les salaires? Est-ce que c'est d'autres solutions? Est-ce que c'est un moratoire sur les licenciements, comme la CGT le préconise
Non, mais tout de même, c'est vrai qu'il y a des problèmes structurels, il ne faut pas le cacher. Mais oui, pendant quand même 4 ans et demi, on a créé énormément d'emplois de ce point de vue-là. Donc, vous voyez, les problèmes structurels, ils étaient pourtant là présents. Donc, quelle est la grande différence entre aujourd'hui et pendant les 4 ans? C'est que les carnets de commandes, c'est les carnets de commandes qui sont maintenant vides. Avant, vous voyez, les enquêtes de la Banque de France sont très claires. Y compris dans l'industrie, il y avait des carnets de commandes qui étaient remplis. Là, c'est vide. Alors, comment on peut expliquer que d'un coup, ça se soit vidé? Ben, y a une grande partie, et ce qui fait la différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est l'épargne. Vous voyez qu'il y a une surépargne aujourd'hui qui est gigantesque en Europe et qui est quasiment vide aux États-Unis. Donc,
pourquoi il y a une surépargne? Les gens sont anxieux, les gens ont peur, donc ça,
c'est vraiment une question, mais à laquelle on n'a aucune réponse ferme. C'est-à-dire que, vous voyez, si je prends que le cas de la France, normalement, les Français épargnent 250 milliards chaque année. Là, c'est 250 milliards plus 250
milliards. Mais alors, la variable d'ajustement, c'est l'emploi.
Il y a un surendettement aux États-Unis aussi.
Mais non, mais d'accord. Mais donc, du coup, c'est-à-dire qu'on surendette et on consomme aux États-Unis. Nous, on ne surendette pas. Donc, quelles sont les solutions? C'est tout de même, quelque part, aujourd'hui, les entreprises nous disent que ce n'est plus des problèmes d'offres, c'est des problèmes de demande. Et donc, il va falloir, alors, soit augmenter les salaires, mais ça fait un coût. C'est ça le problème du salaire, c'est que c'est à la fois une notion de demande et une notion de.
Mais ils ont augmenté les salaires quand même.
Alors, moins que les prix.
L'inflation.
Moins que les prix. Et donc, aujourd'hui, il y a un écart de 2,9 exactement entre le salaire et les prix. Donc, soit vous le faites par là, soit. Vous voyez, ce qu'on peut dire, c'est qu'en Europe, ne faisons pas la même erreur qu'entre 2011 et 2014, c'est-à-dire des politiques de rigueur budgétaire partout en Europe qui cassent la demande au moment où les autres pays font du protectionnisme.
Alors, on évoque les aides, ces fameuses aides publiques, on va en parler avec vous. De quelle nature sont-elles, Anna? Et ensuite, Philippe Dessertine réagira.
Oui, les aides publiques, en réalité, c'est la somme de plusieurs dispositifs, des exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires, le crédit impôt recherche, le crédit d'impôts pour la compétitivité et l'emploi et bien sûr des subventions régionales et européennes. Au total, il existerait près de 2000 dispositifs d'aide qui sont pour la plupart cumulables. Mis bout à bout, la CGT estime donc que ces aides atteignent 200 milliards d'euros par an selon une étude qui a été réalisée conjointement avec l'Institut de recherche économique et sociale en 2020 et ça ne prend pas en compte donc, les mesures d'urgence, c'est-à-dire celles qui sont liées au Covid et qui sont évaluées à 80 milliards d'euros, ni celles relatives au bouclier énergétique. Et si maintenant on prend plus précisément le cas de l'entreprise Michelin, elle aurait bénéficié, on va le voir, du CICE à hauteur de 65 millions d'euros, auxquels viennent s'ajouter 12 millions d'euros d'aide pour le chômage partiel, 200 millions d'euros via le plan de soutien automobile en 2020 selon LFI, et Michelin déclare aussi avoir reçu 55 millions d'euros de crédit impôt recherche, ce qui lui a d'ailleurs permis de rester compétitive un certain temps en rapatriant des activités de recherche et développement qui auparavant se trouvaient au Japon et aux États-Unis. Philippe Dessertine, est-ce que vous ne pensez pas que sans ces aides, Michelin aurait certainement été en difficulté beaucoup plus tôt?
Je pense que le paradoxe français, enfin, vous voyez, quand on parle des entreprises, je crois qu'on voit vraiment en ce moment qu'on ne peut pas s'appuyer sur quelque chose de stable, définitif. C'est-à-dire, vous dites, on va prélever la richesse. Sauf que tout d'un coup, les entreprises, elles ne produisent plus la richesse. La question qui se pose pour les entreprises françaises, et qui, ce n'est pas le cas de Michelin du reste, mais qui n'arrivent pas à exporter, ça c'est vraiment l'élément juge de paix fondamental. On n'est pas compétitif à l'exportation. Pourquoi ? Et il faut le rappeler, la France est le pays avec les prélèvements obligatoires les plus forts du monde, on peut dire, vous voyez, parce qu'on ne va pas regarder ce qu'ils font en Corée du Nord. Mais grosso modo, là, on a des statistiques, c'est des prélèvements obligatoires très, très lourds.
Oui, il faudrait faire encore baisser la pression fiscale sur les entreprises.
Voilà, qui veut dire que ce qu'on a d'ailleurs eu dans le débat politique il y a encore quelques semaines, c'est-à-dire si on augmente, en fait, on va faire des aides. C'est-à-dire on fait des aides pour compenser un système qui est bancal, qui est de plus en plus bancal et qui ne tient pas. En fait, qui tient par un endettement public qui ne cesse d'augmenter, qui essaie d'alimenter la demande et qui n'y parvient pas. Et là, de plus en plus, on est coincé, c'est-à-dire qu'on voit le coût de plus en plus lourd, l'endettement qui est en train d'échapper à tout contrôle. Et de l'autre côté, notre création de richesse qui commence à stagner. C'est le cas du quatrième trimestre.
Donc l'État n'a pas à intervenir, selon vous?
L'État va surtout devoir aujourd'hui essayer d'arriver à survivre par rapport à ses missions régionales. Régalienne. Il faut quand même pas oublier que le problème de l'État aujourd'hui, c'est d'abord que les services publics ne rendent pas les services qu'attend le public.
Alors Sophie Minet, vous dites qu'on augmente, on continue à augmenter les aides et à donner de la fiscalité attractive
aux
entreprises.
Ou un moratoire sur les licenciements. Deux choses. D'abord, effectivement, il faut un moratoire sur les licenciements. C'est indispensable parce que sinon notre industrie ne s'en remettra pas. Là, on parle potentiellement d'un à deux points de PIB qu'on peut perdre au niveau industriel. On est déjà très faible. Après, derrière, reconstituer le tissu industriel, c'est extrêmement long.
Donc, c'est juste repousser le problème, à mon moratoire.
Et justement, c'est pour ça, nous, c'est surtout pas ça. C'est pas un statu quo comme ça a pu être fait pendant le Covid. C'est un moratoire pour trouver des solutions avec des prérogatives pour les représentants du personnel et pour les pouvoirs publics pour trouver des projets alternatifs, transformer les entreprises qu'ils doivent l'être, chercher des repreneurs, etc., pour empêcher cette casse de notre tissu productif et la perte des qualifications. Ce sur quoi je voulais réagir, c'est que nous fêtons cette année les 10 ans de la politique de l'offre qui a été inaugurée en 2014. La politique de l'offre, c'est baisser la fiscalité des entreprises, multiplier les aides publiques pour les entreprises. On est à 200 milliards, c'est un tiers du budget de l'État. Et le résultat, c'est quoi? C'est que notre balance commerciale atteint un déficit commercial record.
Pardon, mais ça a permis des créations d'entreprises aussi et des créations d'emplois.
Oui, en attendant, sur l'industrie, le résultat, franchement, on ne le voit pas, puisque le déficit commercial est record aujourd'hui. Donc la leçon, c'est qu'il faut changer, avoir une vraie politique industrielle qui cesse de donner tous les leviers aux grands groupes, parce qu'aujourd'hui nos grands groupes n'en ont plus rien à faire de la France, et donc il faut travailler sur tout le tissu productif, notamment sur les petites et moyennes entreprises, avec une vraie stratégie sociale et environnementale.
Non, mais c'est vrai que cette politique de l'offre a été un peu naïve. D'ailleurs, certains ne l'appellent pas la politique de l'offre, c'était juste une baisse de la fiscalité. Il y a eu effectivement 3 points de PIB qui de baisse de fiscalité. Le résultat, pour l'instant, effectivement, il n'est pas probant, et on n'a pas réussi à améliorer la productivité, on n'a pas réussi à améliorer la compétitivité, et les balances commerciales, effectivement.
Mais on a amélioré l'emploi.
Mais l'emploi, mais que de façon transitoire.
C'est que une croissance supérieure à l'Allemagne.
Et la dette explose.
Oui, alors, croissance supérieure à l'Allemagne, mais pas supérieure à la moyenne de la zone euro. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'Allemagne qui fait moins bien que nous, mais en moyenne, la zone euro fait... Non, depuis 5 ans. Si on fait depuis la crise économique, nous, on est à peu près 0,1 en dessous de la moyenne. Donc, ce n'est pas terrible, effectivement. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire une politique de l'offre, mais différente. Et sans doute, peut-être, ce n'est pas continuer avec les industries anciennes, c'est avoir les vraies industries qui, avec un cap qui est... une croissance soutenable. C'est-à-dire une industrie qui ne soit pas forcément la sidérurgie d'hier. Il faut essayer d'avoir une croissance soutenable d'un point de vue énergétique. Et donc, il va falloir une industrie verte, et de ce point de vue-là, c'est ça qui va nous permettre de gagner en compétitivité face aux autres.
Alors, l'État peut-il tout? C'est une question que quelqu'un que vous connaissez tous se posait déjà en 1999 à propos de Michelin. Lionel Jospin, archive.
Les patrons de cette entreprise, ils viennent de voir comment ont réagi les Français. Ils viennent de voir à quel point l'opinion, elle aussi, a été choquée. Les salariés existent. Il y a des syndicats. Il y a une mobilisation qui peut se mener. Donc, je crois qu'il ne faut pas attendre tout de l'État ou du gouvernement, il faut aussi que se mobilise à la fois l'opinion et les salariés de l'entreprise.
Philippe de Sertine, vous allez nous dire qu'il avait raison déjà à l'époque.
Alors, je vais vous dire que je pense que nous devons absolument quitter le rétroviseur. J'adore évidemment regarder ces images, on a l'impression de revenir un peu dans la jeunesse. Mais je crois vraiment que nous sommes en train de changer de monde par rapport à cette époque et par rapport à l'époque aujourd'hui qui est la nôtre. Nous rentrons dans une ère d'hyper-innovation. On n'a jamais connu ça, nous, de notre vivant. C'est-à-dire, on rentre dans un moment où les valeurs sont en train de migrer de façon incroyable. C'est-à-dire, vous avez une entreprise qui s'appelle OpenAI, qui n'est même pas une une entreprise qui valait moins 20 millions il y a deux ans, qui vaut 150, c'est celle qui fait ChatGPT, qui vaut 157 milliards en deux ans, c'est-à-dire qu'elle vaut beaucoup plus que Total, elle est devenue la 80e entreprise mondiale en deux ans. Comment ça se fait que nous, Européens, on n'y soit pas? C'est ce que dit Draghi. Draghi, il dit, là, il y a juste un problème, c'est que...
Donc vous dites, il faut plus d'investissements. Nous, on crée des normes pendant que les Américains investissent.
C'est exactement ça. Et lorsque Draghi dit, il faut qu'on endette pour s'investir, il dit quoi en filigrane? Donc il va falloir régler la mauvaise dette d'avant. Et ce qui est tout le problème français, qui dit, bah, nous, on est des blocages en ce moment, et pas des solutions.
Sophie Binet, là-dessus.
Lionel Jospin a été le premier à ne pas être au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et je pense que cette déclaration « l'État ne peut pas tout » est au cœur de sa défaite face au Rassemblement national, parce que le message est déflagrateur, en fait. Ça signifie que sur le problème central, à savoir le problème du travail, le problème de l'emploi, le problème des salaires, on démissionne et qu'on laisse la main aux grands groupes. Non, l'État ne peut pas tout, mais l'État peut beaucoup. L'État peut avoir une stratégie industrielle à l'échelle française et à l'échelle européenne. L'État peut aussi donner des prérogatives aux représentants des salariés, parce qu'aujourd'hui, nous sommes les passagers clandestins en matière de discussions stratégiques dans les entreprises.
Nous, vous, les salariés.
Nous, les salariés. Je vais vous prendre un exemple. ExxonMobil fait un plan de licenciement en Seine-Maritime. 650 emplois directs, 2000 emplois indirects. La CGT a un projet alternatif qui coûte moins cher que le plan de licenciement et que le plan de dépollution. Personne n'examine ce projet parce que Exxon ne veut pas qu'il y ait de repreneurs, ça lui ferait un concurrent, et que l'État n'a pas de stratégie industrielle. Je pourrais multiplier les exemples.
Vous parlez d'ExxonMobil, qui est une entreprise américaine. Éric Ayer, en 2025, avec l'arrivée de Donald Trump, qui veut déréguler à tout va et qui va intensifier la guerre commerciale sauvage entre les États-Unis et l'Union européenne, qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce qui se profile à l'horizon?
Il faut rappeler, dans les carnivores et les herbivores, que pour l'instant, ce sont nous les carnivores.
Ça, c'est la comparaison d'Emmanuel Macron.
C'est-à-dire que c'est l'Europe qui est excédentaire, la zone euro est excédentaire, d'un point de vue commercial, et les États-Unis sont déficitaires. D'accord. Donc, il est un peu normal aujourd'hui, et la Chine aussi est excédentaire, mais il est un peu normal d'un point de vue des États-Unis
qu'ils entament
aussi, parce qu'on a un euro sous-évalué, et donc il y a un peu cette logique-là. Alors, c'est sûr que cette stratégie-là, qui n'est sans doute pas une bonne stratégie pour nous, ça va être en plus inflationniste chez eux, donc ça veut dire que la Banque centrale américaine ne va pas baisser les taux comme on l'anticipe, et donc ça veut dire en ricochet que notre Banque centrale ne va pas non plus baisser les taux, sinon l'euro va s'effondrer, et donc ça veut dire que ça va être très compliqué pour réinvestir, et penser que les taux d'intérêt vont baisser fortement, ça va être plus complexe. Et donc ça veut dire que l'Europe doit réagir d'une autre façon. Et quand vous avez interpellé en disant on fait que des normes, oui mais pourquoi nous faisons que des normes en Europe? Nous n'avons pas de budget européen. Ah. Nous n'avons pas de fiscalité européenne. Et donc quand vous demandez
donc,
à la Commission,
et donc
non mais quand vous demandez à la Commission, essayons de
enfin, mettre l'Europe des incitations, fait aussi des normes. L'Europe fait aussi des normes.
On parle de ça.
Il en faut.
Mais nos concurrents n'en font pas.
D'accord, mais pourquoi on ne fait que des normes? Parce qu'on n'a pas d'armes budgétaires, on n'a pas d'armes fiscales. La seule arme dont on dispose, ce sont les normes, on en fait trop.
On en fait trop?
Oui, mais je pense que quand on dit l'arme budgétaire, il faut bien être clair, les États-Unis ont une capacité qui est totalement exorbitante, c'est qu'ils émettent du dollar comme ils veulent. Et le dollar ne baisse pas parce qu'un secrétaire d'État au Trésor l'avait dit autrefois, le dollar est notre monnaie et votre problème. Le reste du monde est obligé de pomper pour remonter le dollar sans cesse parce que c'est la monnaie qui fait les échanges. En revanche, la question qui se pose avec Trump, et la vraie question, c'est l'alliance Trump-Musk, Elon Trump. Parce que Musk, en termes économiques, c'est exactement l'opposé de Trump. Exactement. Il se trouve que moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'il fait depuis longtemps. C'est impressionnant. Et d'ailleurs, entre parenthèses, quand Trump est en train de dire énergie fossile, vous avez Tesla qui monte. Que je sache, ce n'est pas des voitures qui fonctionnent au pétrole. Donc il y a vraiment une question là qui va être un angle de vue important pour l'Europe.
Eh bien, écoutez, on en parlera d'ici quelques semaines. Ici même, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.